How you doing?
Bienvenue au bureau des légendes.
Somebody royally forked up.
Un épisode et j'arrête.
Dracarys.
Une émission présentée par l'ACS.
C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Déviré.
L'association des critiques de séries en partenariat avec Beta Série, la radio.
These violent delights have violent ends.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on va parler de la nouvelle super production Netflix au budget colossal confiée aux showrunners de Game of Thrones, Le Problème à trois corps, adaptation d'une trilogie de science-fiction par l'auteur chinois Liu Cixin, vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde. Et tendez l'oreille parce qu'on en a quelques-uns à vous faire gagner grâce à l'éditeur Actes Sud.
Ont peur du noir. Allez savoir ce qu'il s'y cache. L'inconnu est troublant. Certains disent que nous ne devrions pas y regarder de trop près, ni chercher qui pourrait habiter ces ténèbres. Mieux vaut ne pas savoir.
Je suis Nora Boisouni, journaliste indépendante et présidente de l'ACS, et je suis accompagnée par trois de nos journalistes membres. Margot Barallon, salut Margot.
Hello.
Tu travailles notamment pour Trois Couleurs et Filmo TV. Romain Nigita, salut Romain.
Bonjour.
On peut te lire dans Téléstar et dans Mad Movies, et salut Ilan Ferry.
Hello.
On te retrouve dans Lire Magazine Littéraire. Ilan, c'est toi d'ailleurs qui a eu la lourde charge de rédiger la carte blanche à la fin de cet épisode. De quoi vas-tu nous parler ?
Je parle d'un sujet très à propos qui est les séries à grand spectacle.
Oh, waouh ! Très bien, le grand spectacle est au programme de cet épisode. Alors, Le Problème à trois corps, venons-en au fait. La saison 1, elle correspond plus ou moins, on va dire, au premier tome du livre. En fait, on va spoiler personne dans cet épisode, mais on ne peut pas en dire trop non plus. Et pour le pitch, on va volontairement faire court et vague, si vous n'avez pas encore vu la série. Grosso modo, une astrophysicienne chinoise, Yi Wenji, reçoit, dans les années 70, un message extraterrestre. Et comme elle a d'excellentes raisons de ne plus croire en l'humanité, elle va y répondre et... elle vienne que pourra. Sachant que la trilogie s'étend sur à peu près un millénaire,
plusieurs milliers d'années,
on ne peut pas en dire beaucoup. En tout cas, la saison 1, elle ne s'étend pas sur autant de temps, vous verrez. Comme je le disais au début, Le Problème à trois corps, elle est très attendue, doublement attendue en fait, puisqu'il s'agit d'abord de la nouvelle production à gros budget de Netflix. Hein, on est quand même sur un budget de 160 millions de dollars, ça en fait une des séries les plus chères de tous les temps. Et c'est aussi la série d'un duo de choc, habitué aux défis du genre, David Benioff et D.B. Weiss, qui ont co-signé l'adaptation de Game of Thrones pour HBO, et ils sont aussi rejoints par un autre showrunner, Alexander Wu, qui est showrunner de The Terror, très bonne série d'ailleurs que je conseille aussi à tout le monde, et scénariste notamment pour True Blood. On retrouve aussi quelques acteurs de Game of Thrones, hein, on est un peu habitué maintenant. C'est donc aussi l'adaptation d'une trilogie à succès, je le disais, qui est plébiscitée par de grands auteurs et autrices de l'imaginaire, lauréats de nombreux prix prestigieux, traduits en plus de 30 langues en français par Gwenaëlle Gaffric, adaptation formidable, chez Actes Sud donc. Et il y a aussi eu l'an dernier, en 2023, une adaptation sérielle chinoise. Romain, que tu as vu.
Que j'ai vu en partie, je n'ai pas vu jusqu'au bout, mais je pourrais vous en parler
bien sûr. Et alors, ce qui est chouette dans cet épisode, c'est que Margot et Ilan, vous n'avez pas lu les livres.
Non, on ne sait pas lire.
Vous êtes donc plus neutres. C'est dommage parce qu'il travaille pour Lire Magazine Littéraire, Ilan.
Vas-y, rajoute-en.
C'est un petit peu dommage. Et alors, Romain et moi, on est des grandes fans de la trilogie Problème à trois corps, donc on va pouvoir ensemble porter un double regard sur cette nouvelle série. Mais encore une fois, pas d'inquiétude à la maison, hein, pas de spoiler. C'est bien, ce n'est pas le genre de la série de spoiler. Je vais commencer par Romain. Toi, donc, tu as lu, tu as adoré la trilogie de Liu Cixin. Est-ce que l'adaptation par Netflix comble tes espérances et tes attentes ? Est-ce que c'est à la hauteur des ambitions ?
Malheureusement, non. Voilà, je pose le constat dès le départ.
Ça, c'est fait.
Si vous avez adoré les bouquins comme moi, Clairement, il y a une petite déception, mais il y a une partie de réussite. Ce qui est intéressant que le problème à trois corps, en tout cas le premier bouquin, c'est que le véritable sujet de cette histoire ne se dévoile que très lentement. Dans le résumé que tu as fait, en fait, il y a quelques minutes, tu en dévoiles déjà beaucoup trop par rapport au début du bouquin. En fait, le bouquin, tout comme la série, ça commence avec des meurtres mystérieux dans la communauté scientifique. Point. En fait, il faut quasiment pas dire plus que ça. Le fait qu'il y a des choses qui viennent de l'espace, c'est déjà une énorme révélation en plein milieu du bouquin et en plein milieu de la saison. C'est-à-dire qu'au départ, on sait même pas qu'il y a des choses qui auraient une interaction avec une autre planète. Et c'est ça que moi je trouve formidable dans le bouquin, c'est qu'on a ce côté slow burner, une tension qui monte progressivement. Le style du roman vraiment parvient à nous capter alors qu'il se passe pas grand-chose. Et je pense que l'une des pistes qu'ont eu justement les auteurs de la série, de la version Netflix, c'est d'aller très vite. Il y a finalement relativement peu d'épisodes, il n'y a que 8 épisodes et tout s'enchaîne beaucoup trop vite. Et moi, c'est ça qui m'a déçu. Typiquement, il y a un épisode vers la fin de la saison où il y a un personnage qui doit prendre une décision vraiment qui la tracasse. Elle doit décider si elle va travailler pour une grande compagnie ou pas. Et pendant tout l'épisode, c'est « mais je ne sais pas si je vais y aller ou pas, vraiment, ça me pose problème, etc. » À la fin de l'épisode, elle dit « ok, finalement, j'y vais. » Début de l'épisode suivant, « non, finalement, je démissionne. » Voilà, on dit, mais merde, j'ai raté un épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, mais voilà, tout va beaucoup trop vite. Et ce qui fait que justement, tout, en tout cas selon moi, tous les aspects, tous les défis scientifiques qui sont dans le bouquin, parce qu'en gros, le bouquin est rempli de théories et de concepts, de prospectives scientifiques, tout fait boule de neige, dès qu'on a compris un truc, il faut développer autre chose, etc. Enfin, c'est quasiment un polar scientifique, c'est absolument passionnant.
On en parlera après d'ailleurs, de l'aspect, comme on dit, hard SF, voilà. Donc l'aspect scientifique des bouquins.
Et moi, je trouve qu'on perd tout ça dans la série, c'est-à-dire que les enjeux n'y sont plus, on comprend pas pourquoi c'est si compliqué, finalement, ils trouvent tout très facilement. Il y a un aspect avec une réalité virtuelle, j'en dirai pas plus. Dans le bouquin, c'est central dans ce premier bouquin-là. Là, finalement, dans la saison, bah, à quoi bon ? C'est résolu, il y a une énigme à résoudre et c'est résolu en 3 épisodes. On se dit, bah, finalement, on aurait pu faire 100. Alors que c'est le côté le plus fascinant du bouquin. Donc tout ça m'a, moi, finalement, assez déçu. Par contre, ce que j'ai trouvé très réussi, c'est la manière de reprendre la structure complète de la trilogie. Là aussi, sans trop en dévoiler, les bouquins 2 et 3 se passent plutôt dans le futur. On s'éloigne de plus en plus de notre époque. Sauf qu'à chaque fois, l'auteur introduit des nouveaux personnages. Des personnages qui ne sont pas dans le tome 1 apparaissent dans le 2, puis encore des nouveaux personnages dans le 3, mais des personnages qui, au départ, viennent du présent. Donc, ils sont des contemporains des personnages du premier bouquin. Là, en fait, l'idée de base de l'adaptation télé, c'est d'avoir fait de tous ces personnages-là des amis qui se connaissent tous et sont tous là dès le départ. Donc, les fameux Oxford Five, les 5 amis d'université qui sont les héros centraux de la version Netflix, en fait, dans les bouquins, ils se connaissent pas. Ils sont introduits au fur et à mesure des tomes. Le fait d'avoir regroupé tout le monde et d'avoir remis tout dans l'ordre chronologique, ça, je trouve que c'est assez fluide, c'est assez organique, et je trouve que c'est la bonne idée de cette adaptation.
Alors, je me tourne maintenant vers Ilan et Margot, qui n'ont pas lu les livres et qui donc ont forcément un regard très différent et complémentaire de ce que vient de dire Romain. Est-ce que vous, ça vous a semblé aussi aller un peu vite en besogne, même si vous n'avez pas lu les livres avant, ou est-ce que le rythme ne vous a pas dérangé plus que ça ?
Alors, pour certaines choses, ça va vite. Je suis assez d'accord quand Romain dit qu'ils ont des problèmes scientifiques qui finalement sont résolus assez rapidement par rapport à la complexité de la chose de base. En revanche, moi, j'ai pas ressenti, mais probablement parce que j'ai pas lu les livres, le rush du début, au contraire. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien de mettre plus d'un épisode à découvrir exactement ce qui s'est passé, pourquoi il y a tous ces meurtres bizarres, toutes ces disparitions. Et d'ailleurs, le premier épisode, je disais, c'est super bizarre, c'est compliqué, je vois pas où est la science-fiction là-dedans et tout ça. Et ça se dévoile après. Donc, pour le coup, moi, j'ai pas trouvé ça si rapide que ça au début. C'est probablement parce que je l'ai pas lu.
Ilan ?
Alors, pour moi, il y a un problème à 2 corps, pas à 3 corps.
Oh,
t'as eu ça, jeu de mots. Non, le truc, c'est que j'ai été assez surpris par, on va dire, l'approche un peu intimiste de l'histoire. C'est-à-dire que se focaliser sur ce groupe d'amis, parler de la mort, de ce qu'on laisse derrière soi, cette espèce de legs à travers une ambiance un peu apocalyptique, je trouvais ça intéressant. De voir quelque chose qui est plus grand que l'homme, mais vu à hauteur d'homme et de femme. Donc ce groupe-là, les Oxford Five, ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pu, moi, ressentir de l'empathie pour ces personnages et me raccorder à eux. Donc ça, c'est le côté plutôt réussi. Après, je trouve qu'il y a un problème peut-être de ton et d'échelle sur cette série. C'est-à-dire que le problème à trois corps, ça nous a quand même été annoncé comme la grosse série, la grosse machine de Netflix, les showrunners de Game of Thrones, un gros budget. Enfin, c'est la grosse machine. Donc, on s'attend à un truc visuellement impressionnant, ultra addict. Parce que c'est Game of Thrones, quand même. Bon, je pense pas à des décapitations à chaque fin d'épisode, mais je pense quand même à quelque chose de, voilà, d'assez prenant. Et là, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ce côté addict. J'ai pas été forcément pris dans l'intrigue, alors que les premiers épisodes sont assez intéressants. Il y a ce côté polar dont tu parlais qui est plutôt bien amené. Il y a une ambiance qui est là, et après, tout d'un coup, patatras, ça retombe comme un soufflé. Ça devient beaucoup plus lancinant, beaucoup plus banal, je trouve. Et on vient se demander où sont passés les 20 millions ou 30 millions qu'il doit y avoir par épisode. Donc, je trouvais que par rapport à la promesse, par rapport à la manière dont c'était marketé, dont c'était vendu, il y avait une promesse qui n'était pas tenue. Et peut-être qu'effectivement, prendre des éléments des différents bouquins, les mixer, peut-être que ça va effectivement trop vite ou trop lentement. Moi, je ne sais pas trop sur quel pied danser avec cette série. Il y a eu un enthousiasme de début qui est retombé.
Justement, j'avais une question pour la fin, mais je vais en parler maintenant, parce que vous en parlez tous les trois et toutes les trois du rythme de cette série. Justement, ce que tu dis, Ilan, alors la série est sur Netflix, donc on va sortir tous les épisodes. Alors nous, on les a vus en une fois, parce que on a dû tout voir d'un coup. Forcément, les gens qui après auront le choix de la regarder un par jour, deux par jour, ce sera un rythme différent pour eux et pour elles de le découvrir. Mais est-ce que cette série sur Netflix, elle ne souffre pas justement d'une diffusion all-in, alors que des séries comme Game of Thrones sur HBO, on n'avait pas le choix, hein, c'était un par semaine et puis on attend, et donc on a le temps de spéculer, on a le temps de... l'attention a le temps de monter. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette série souffre de cette diffusion netflixienne finalement ?
C'est difficile à dire avant. Moi, je sais que visiblement, j'ai eu l'expérience inverse d'Ilan. C'est-à-dire que plus ça avançait, plus j'avais envie de savoir ce qui se passait après. Et c'est pour moi l'aspect le plus réussi de la série. C'est que c'est quand même la base. On a envie de voir l'épisode d'après. Là-dessus, du coup, je me dis que oui, si jamais j'avais dû la regarder avec un épisode par semaine, j'aurais attendu avec impatience qu'il sorte et tout ça. Je ne suis pas sûre que ça nuise tant que ça, le binge-watch, la façon de regarder avec tous les épisodes d'un coup. Je ne suis pas certaine que les gens aillent jusqu'à l'overdose d'eux-mêmes. Je pense qu'ils s'arrêtent au bout d'un moment.
Robin ?
Le problème que tu poses, moi, je pense que c'est un problème général à Netflix, de toute façon, que ça soit sur cette série-là ou d'autres. On voit clairement que des séries comme Game of Thrones, The Last of Us ou même Walking Dead à la grande époque bénéficiaient de ce côté réseau social. Entre deux épisodes, tout le monde discutait, mais qu'est-ce qui va se passer ? Parce que tout le monde a vu l'épisode en même temps. Le problème d'une mise en ligne comme Netflix, c'est que tout le monde ne va pas regarder au même rythme, donc les gens ne peuvent pas en discuter. Parce que, attends, tu vas me spoiler, j'ai pas vu, etc. La semaine d'après, il y a une autre série qui sort, on parle plus de la semaine d'avant. Donc ça, selon moi, c'est un problème qui est global à ce mode de diffusion-là, pas uniquement à cette série-là. Est-ce que cette série-là va en souffrir plus que d'autres ? Je pense qu'en effet, il y a le risque qu'il y ait une énorme attente, parce que pour 90% des gens qui vont regarder cette série-là, c'est pas du tout l'adaptation d'un bouquin dont ils n'ont pas entendu parler, parce que le bouquin est un carton en librairie, mais je pense qu'en dehors des librairies, personne n'a jamais entendu parler de ce livre, mais exactement comme Game of Thrones à l'époque d'ailleurs. Je pense que les gens vont être déçus parce qu'ils vont pas retrouver Game of Thrones, comme tu disais, Ilan. Mais tout comme la première saison de Game of Thrones, en effet, c'est assez réduit en termes d'échelle. Game of Thrones, on s'en souvient plus forcément, mais la première saison...
C'était passé assez inaperçu.
Il n'y a aucune grande bataille. La seule bataille qu'il devait y avoir, ils n'ont pas pu la tourner, faute de budget. Il y a Tyrion qui se fait taper sur la tête, il tombe dans les vapes. Quand il se réveille, on lui dit « tiens, il y a une grande bataille, tu l'as loupée ».
Une belle ellipse.
Voilà, donc quand on voit ça, et finalement, le problème à trois corps, si jamais ils ont la chance, ils ont le succès pour faire la suite, ce qu'on espère quand même, les bouquins 2 et 3, là pour de bon, c'est 2001 au-dessus de l'espace, avec Star Wars et compagnie. Ça n'a rien à voir avec le premier bouquin, donc ça sera complètement autre chose. En gros, ce qu'on peut attendre de cette saison 1, si on ne connaît pas trop cette trilogie, c'est ce qu'on aura dans la saison 2 et 3. Donc il faut dire aux gens, ok, il faut vous farcir 8 épisodes, il va falloir attendre 2 ans, parce que probablement il va falloir 2 ans avant de sortir la saison suivante. C'est là qu'à mon avis, il y a un gros, gros, gros défi vis-à-vis du public de Netflix. On sait que Netflix n'est pas très patient à ce niveau-là. Si ça ne marche pas la première semaine, je pense qu'on ne verra jamais la suite.
Je suis assez d'accord. Alors après, je voulais qu'on parle aussi de l'aspect visuel. Parce qu'il y a des petites déceptions. Alors, ayant lu les bouquins, moi, j'attendais certaines scènes avec impatience, même si dans cette première saison, je savais qu'il n'y aurait pas énormément de choses extraordinaires, parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est surtout après que les choses vont se corser pour les artistes qui vont devoir nous montrer
des choses qui se passent dans l'espace.
Leurs 2000 ans.
Qui sont compliquées à juste même imaginer, envisager en tant que personne qui sommes soumis à des lois de la physique, on va dire, élémentaires. Moi, j'ai pas été déçue dans cette première saison visuellement. J'ai trouvé ça. Pas grandiose non plus, mais il y a des scènes que j'attendais, notamment on dira, mais une scène avec un bateau dans un canal que j'attendais beaucoup, parce que dans le livre, elle est quand même assez choquante. Moi, ça m'a. À ce niveau-là, au niveau ambition visuelle, j'ai été servie. Et Romain, toi, t'as été déçu, heureux.
J'ai été déçu par. Je l'ai déjà un peu cité au début du podcast, donc je peux en reparler. Il y a toute une histoire avec une réalité virtuelle. Et il y a notamment une séquence avec énormément de personnes, voilà, j'en dis pas plus, mais qui doivent, en gros, ça symbolise quelque chose, le fait qu'il y ait toutes ces personnes qui interagissent. Là aussi, certainement pas en raison des effets spéciaux, mais le fait que ça passe trop vite, on comprend pas l'intérêt de ce truc. Alors que dans le bouquin, c'est une idée absolument dingue. Là, visuellement, on se dit, OK, il y a plein de monde, c'est une foule comme on peut en avoir dans Le Seigneur des Anneaux, quand Saruman est en haut de sa tour et qu'il voit toutes ses armées, so what, on a déjà vu ça il y a 20 ans. Donc certes, les effets spéciaux sont là, le budget est là, mais derrière, comme on n'a pas le temps de comprendre ce qu'on voit, les enjeux ne fonctionnent pas. Donc c'est pas tellement les effets spéciaux, les images de synthèse ou quoi, c'est le fait que finalement, c'est au service d'un vide. Et ça, c'est dommage.
Je suis étonnée qu'ils aient pas, justement, parce qu'on parle souvent dans ce podcast aussi, de traire la vache, donc d'éterniser, ce qu'on appelle le IP, donc les propriétés intellectuelles aujourd'hui, d'avoir des spin-offs, des machins, des reboots, des remakes, de faire traîner des films ou des séries en longueur, les Harry Potter divisés en quatre, enfin, on peut en parler. Et là, moi, j'étais étonnée, justement, qu'on ne divise pas cette saison en deux, justement pour donner plus d'espace et plus d'ampleur quand on a lu les bouquins. Je ne pensais réellement pas qu'ils allaient faire tenir en une saison un tome, en fait, voire un tome et demi. Et ça, je pense, ça participe à ce dont on parle depuis le début, cette impression, quand on a lu les bouquins en tout cas, que tout va beaucoup trop vite et que scientifiquement, ce n'est pas possible. Et que visuellement, on aurait adoré passer un épisode entier avec ce que tu viens de décrire. Alors, c'est compliqué d'en parler sans spoiler, mais dans cette chose qu'on voit quand même dans les trailers, on peut en parler aussi, il y a ce casque étrange et qui nous fait rentrer dans un monde en VR, voilà. Je voudrais vraiment aborder un aspect, on va aller rapidement dessus parce que quand on n'a pas lu les bouquins, ça va être chiant à écouter, mais c'est un livre écrit par un auteur chinois, Lu Cixin, et le livre s'ouvre sur un chapitre très long sur la révolution culturelle chinoise. La série s'ouvre aussi sur une scène, alors elle est plutôt rapide, dans le livre c'est quand même très très long, et le livre et la trilogie entière baignent dans une culture chinoise, ça se passe en Chine de toute façon. Qu'est-ce que toi t'as pensé, Romain? Alors assez rapidement pour ceux et celles qui n'ont pas lu les bouquins, mais est-ce que, moi j'ai eu peur du whitewashing, clairement.
C'est intéressant quand justement on a vu la version télé chinoise, parce que la version télé chinoise, donc qui est tournée en Chine avec uniquement des acteurs chinois, etc., la fameuse scène de révolution culturelle, ils l'ont tout simplement coupée.
Mais non.
Mais si.
Ah bah oui, logique.
Ça n'y est pas. Bah oui, parce que le gouvernement chinois actuel, qui contrôle les médias, donc la télévision et les séries, c'est pas vraiment ce qu'elle a envie de montrer de l'histoire de la Chine.
Il n'y a pas de censure sur la révolution culturelle. Alors, il y a d'ailleurs des choses qui ne sont pas dites, mais en tout cas, je sais qu'il n'y a pas de censure.
L'aspect qui est montré de la révolution culturelle dans cette scène-là, c'est pas l'aspect le plus positif.
Non, pas vraiment.
Clairement pas. Donc, cette scène-là, elle est carrément absente. On ne l'a pas au début.
Alors, comment on explique la trajectoire intellectuelle de cette astrophysicienne après?
Elle travaille, elle reçoit un signal et voilà quoi.
Ah ouais.
Donc, on a gommé tout cet aspect-là. Alors, en effet, la version Netflix a conservé ça. Après, c'est Netflix qui a choisi de confier ça à des scénaristes occidentaux. Donc, c'est le choix du whitewashing relatif, il est de Netflix, il n'est pas de Benioff et Weiss. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même une vision assez internationale et cosmopolite de leur histoire. C'est-à-dire que les personnages, certes, sont basés à Oxford, donc en Angleterre, mais ils viennent des quatre coins du monde. L'héroïne est interprétée par une actrice mexicaine. L'une des autres héroïnes est néo-zélandaise ou australienne. Je suis désolé si je me trompe entre les deux.
Néo-zélandaise,
oui. Donc, ils ont quand même pris ça en compte, le fait que certes on est américain, on fait un truc qui se passe en Angleterre, mais on a des personnages qui viennent des quatre coins du monde, parce que de toute façon un tel événement est forcément mondial. Donc je trouve qu'honnêtement ils s'en sortent plutôt pas mal à ce niveau-là, et puis il y a quand même Il y a Alexander Wu qui est américain mais qui est de culture asiatique. Il y a Benedict Wong, l'acteur Benedict Wong qui est anglais mais qui est lui-même de culture asiatique. Donc ils ont quand même intégré tout ça, le côté cosmopolite de 2024.
C'est donc une trilogie et une série de science-fiction, mais c'est ce qu'on appelle surtout de la hard SF, la SF dure, c'est-à-dire une science-fiction qui repose sur des connaissances, des bases scientifiques et techniques valides. Et surtout, c'est une littérature qui regorge d'explications scientifiques. Dans les livres, ça prend des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. C'est pointu. C'est ce que moi j'adore la hard, donc ça me va très bien. Par exemple, pour les gens qui nous écoutent, Interstellar ou Seul sur Mars, c'est de la hard SF. Fondation ou Blade Runner ou Matrix, c'est pas de la hard SF, ça n'est pas sur des bases scientifiques solides. Alors, il faut s'accrocher quand on lit des bouquins, il y a des moments où c'est très très hardos. Hein. Heureusement, on peut revenir quelques phrases, quelques pages en arrière, on peut googler des trucs aussi, aller sur Wikipédia pour un peu capter les choses et tomber dans un rabbit hole pendant 3 heures. C'est pareil avec une série, on peut revenir en arrière, mais je me suis demandé si vous, Ilan et Margot, déjà, est-ce que c'est un genre qui vous plaît, la hard SF? Et est-ce que, justement, on parlait aussi du fait que tout va très vite dans cette saison, est-ce que vous êtes un peu perdu parfois dans les explications?
Ilan.
Alors moi je trouve que ça a été plutôt bien vulgarisé pour de l'art d'SF. Moi qui suis nul en maths, je me suis parfaitement retrouvé, il n'y a pas eu de souci. Non, ce que je trouve intéressant avec les exemples que tu as cités, Interstellar, Seul sur Mars, Matrix et Blade Runner, c'est que moi ce que je reproche à l'art d'SF, c'est d'essayer de faire de l'émotion et de ne pas forcément y arriver. Là, le problème à trois corps y arrive. Il y a un nœud émotionnel qui se crée malgré le postulat scientifique qui est fort, mais qui ne prend pas justement le pas sur l'humain, sur l'émotion. Donc je trouve que c'est plutôt bien amené. Ils ont pris le meilleur, on va dire, du hard SF et du soft SF. Je ne sais pas si on peut dire soft, mais du SF. Et ils en ont fait quelque chose d'assez digeste.
En fait, le fait d'avoir un support visuel aide énormément. Quand il faut expliquer comment on va envoyer des trucs dans l'espace, à partir du moment où vous faites un dessin, c'est quand même plus facile. Enfin, j'imagine par rapport au livre où il faut lire toutes ces explications. Là, on a des schémas sur des tableaux et c'est assez réaliste qu'ils fassent des schémas sur un tableau. Donc ça ne m'a pas dérangée. Par ailleurs... accepter que je ne comprends pas tout est quelque chose aussi que voilà qui est devenu monnaie courante. Donc moi, ça m'a pas dérangée. En revanche, je pense que ça explique pourquoi ça va si vite. Et ce que tu disais, Nora, sur je m'étonne qu'ils aient pas fait durer plus d'épisodes. Je pense que malheureusement, on prend quand même les spectateurs un peu pour des gens un peu teubés et très impatient surtout, à tort ou à raison, et que donc on s'est dit que s'il y avait tous ces concepts scientifiques pendant un peu trop longtemps, les gens n'allaient pas accrocher. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'interprète le fait que ça aille super vite. Et on se dit, bah, la hard SF, c'est pas non plus pour tout le monde, donc on va faire plein de petits dessins, puis on va rendre ça quand même pas si compliqué que ça. Enfin, ça va être plus digeste. Moi, ça m'a pas dérangée, mais je pense que ça explique pourquoi ça va si vite.
Oui, c'est peut-être le côté Netflix, effectivement, dont on parle depuis tout à l'heure. Hein, c'est la plateforme qui veut peut-être aussi ça, cette oversimplification de ce jargon. Toi, Romain, est-ce que tu as retrouvé le frisson jargonneux de ces livres où il y a des choses qu'on ne... Enfin, moi, j'ai fait L aussi, les maths, c'est pas mon truc. Je m'intéresse à la science, mais bon, voilà, j'ai fait une fac d'anglais. mais ce livre, moi, je l'ai vraiment... Enfin, ça m'a passionnée, même si je comprenais comme Margot, j'acceptais de ne pas tout comprendre. Est-ce que tu as retrouvé quand même un petit frisson de hard SF dans cette adaptation?
C'est ça qui m'a le plus déçu, et alors que c'est ça que j'avais adoré dans les bouquins. C'est-à-dire que Lucexine a réussi à faire une grande épopée en utilisant toutes les contraintes qui d'habitude sont éludées dans la plupart des trucs de SF. Moi qui suis un grand amateur de Star Trek, dans Star Trek on a la vitesse de la lumière, on rencontre les extraterrestres, on a les téléportations, tout ça, mais qui sont en fait des raccourcis pour tout de suite aller de planète en planète, etc. Là, il lui pose comme postulat, ça peut-être spoil un petit peu, mais le fait que aller plus vite que la lumière, on ne peut pas, et que donc, pour communiquer, ça prend du temps, ça prend plusieurs siècles. Mais en fait, toutes ces contraintes n'en sont pas. À partir de là, il déduit plein de concepts scientifiques qui font boule de neige. OK, pour faire ça, il faut faire ça, mais pour faire ça, donc, il faut faire ça. Et c'est ça qui est passionnant. Même si on ne comprend pas tout, le style est assez fluide pour dire comprendre que ok, donc à partir de là on va devoir faire ça, donc on va devoir faire ça, donc on va devoir faire ça, et pour ça il faut faire ça. C'est ça qui est absolument génial dans le bouquin. On n'est pas sur des pavés entiers de cours de physique magistraux. C'est pas du tout comme Victor Hugo qui nous explique pendant un chapitre entier comment fonctionnent les égouts de Paris dans Les Misérables. Il y a quand même ça dans Les Misérables, hein, les égouts de Paris. Il y a ça avant la poursuite de Jean Valjean et Javert. Il fait un truc entier pour t'expliquer l'histoire des égouts. Bah, les égouts, t'es construit en telle année, t'es l'architecte, etc. Ça marche comme ça quand tu ouvres une valve. Bref, ça c'est pénible. Désolé Victor. Mais là, c'est super fluide dans le bouquin et il y a des vrais enjeux dans le livre. Et moi, c'est ça qui me déçoit, c'est qu'on ne perçoit pas ces enjeux de difficulté, le côté eureka, ok, à partir de là, on va faire ça. Le côté visuel, c'est vrai qu'en effet, ça, c'est assez bien rendu. On a ce support-là. Mais il y a quand même ce côté, bah, finalement, ils ne sont pas si intelligents que ça parce qu'ils vont super vite.
En fait, tu as raison, c'est le côté eureka qui m'a manqué dans, dans la série parce que dans les livres, moi, j'ai eu l'impression que les livres étaient comme une espèce de je sais pas, d'origami ou un truc plié en tout petit, vraiment de tout petit carré de papier, et que, en fait, au fur et à mesure, tu déplies le papier et c'est toi qui le déplies aussi avec l'auteur qui te guide. Et plus tu déplies, plus tu fais waouh, 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 waouh. Et après, tu arrives à un tissu qui fait 100 km carrés, quoi. Il y a vraiment ce truc de Oh, mais.
Oui, c'est, et puis c'est plus c'est neige, compliqué le processus, plus tu es content quand tu arrives à la fin.
C'est ça, il y a une satisfaction. C'est ça. Le eureka est satisfaisant dans les bouquins. Et vu que ça va très, très vite et qu'on a simplifié tout ça, tout cet aspect scientifique, c'est un peu frustrant.
Et ça, c'est typique du style de Liu Cixin. Le bouquin qu'il a écrit avant, qui s'appelle Boule de foudre, c'est exactement la même chose sur un scientifique qui étudie la foudre et avec des concepts qui s'enchaînent les uns les autres, qui sont de plus en plus dingues, mais qui paraissent totalement logiques et qui découlent les uns des autres. Et on se sent intelligent, même si en fait, si on essaie de résumer le truc, on serait totalement incapable. Mais en lisant le truc, on dit « mais oui, c'est normal, c'est logique et j'ai envie de savoir la suite ». Et voilà, moi, c'est la frustration que j'ai par rapport à la série, c'est que je ne retrouve pas ça.
Préparez-vous à vivre un truc qui sort de l'ordinaire.
Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Eh bien, un concours. Hey, une fois n'est pas coutume. Je l'annonçais dans l'intro, un concours se cache dans cet épisode puisqu'on vous fait gagner grâce à la maison d'édition Actes Sud, qu'on remercie, un exemplaire collector et deux exemplaires de la nouvelle édition Babel du premier tome de la trilogie Le problème à trois corps de Liu Cixin, magistralement traduit, et je pèse mes mots, par Gwenaëlle Gaffric, qu'on espère recevoir d'ailleurs pour la saison 2. Il vous faut simplement, auditeur, auditrice, répondre à la question suivante. Qui sont les deux membres de l'ACS présents sur ce plateau qui n'ont pas lu les livres? Et on ne leur en veut pas. Qui sont donc ces deux membres néophytes de cette série? Vous avez jusqu'au 5 avril pour nous envoyer la bonne réponse par mail et uniquement par mail sur acsserie@gmail.com, acs.pardon, series@gmail.com. On tirera au sort les bonnes réponses et on vous enverra votre exemplaire du P3C, comme j'ai décidé de l'appeler, parce que c'est vraiment très très long à écrire dans un conducteur de podcast. Alors, on a un peu abordé l'aspect casting, justement, en parlant de l'aspect culturel, en parlant de ces Oxford Five, avec des choix que, personnellement, j'ai trouvé plus ou moins heureux. J'aimerais avoir votre avis, Margot. Margot, ton avis sur le casting.
Plutôt mon avis que mes travaux, s'il te plaît. En fait, c'est... Comme il y a énormément de personnages, que c'est vraiment, il y a un aspect choral, ben on a les défauts et les qualités de la chorale, c'est que tout le monde ne joue pas aussi bien.
Tout le monde ne chante pas aussi juste.
Voilà, exactement. Il y a, moi, des personnages que j'ai beaucoup aimés, et notamment le personnage de Jean, qui fait partie des cinq, qui est interprété par Jess Wong. Je trouve vraiment que ça fonctionne très bien. Idem pour Rosaline Chao, qui fait Ye Wenji, l'astrophysicienne chinoise. Ça fonctionne très bien. Je suis un peu plus réservée sur d'autres. En fait, en ce qui concerne les personnages masculins, personnellement, j'ai eu du mal à m'attacher à leurs problèmes. Et pourtant, ils en ont. Dieu sait qu'ils en ont. Non, mais voilà, on spoile rien, mais il y en a qui ont vraiment des grosses difficultés dans la vie, qui sont confrontés à des enjeux, des choix à faire hyper compliqués, qui ressentent des choses super fortes. Et en réalité, je suis restée un peu extérieure à leurs émotions, malheureusement.
Ilan, toi aussi, alors, tu as eu un cœur de pierre pour certains personnages?
Non, pas vraiment. Relativement, je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre tous ces personnages des Oxford Five. J'ai bien aimé comment, justement, ils se renvoyaient la balle, cette complicité qui est assez évidente entre certains personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Saul, qui est interprété par Jovan Adepo, je sais pas, je m'en excuse avant, c'est que j'avais découvert dans Overlord, mais surtout dans Babylone, et je trouve que c'est un acteur qui gagne en charisme à chaque fois, qui a quelque chose, il a ce côté un peu détaché, un peu nonchalant, que je trouve vraiment réussi.
C'est
vraiment
un super personnage, ouais. Je suis assez d'accord.
John Bradley, qu'on avait vu dans Game of Thrones, qui est aussi très bien dans son rôle de millionnaire. Non, de manière générale, voilà, j'étais assez content. Et puis quand il y a Liam Cunningham dans une série, voilà, il bouffe tout, quoi.
Romain, le casting.
Ah bah moi, j'ai bien aimé tous les vieux. J'aime bien les vieux.
Gérontophilie, voilà, magazine.
Donc Christopher Price, de toute façon, formidable. Brazil, Tom René Vedais, acteur qu'on adore retrouver. Pareil pour Liam Cunningham, dans un rôle de salopard qui deviendra encore plus salopard au fur et à mesure de l'histoire. Benedict Wong dans le rôle de ce flic complètement désabusé, mais qui est le seul à un peu avoir la tête sur les épaules et qui est là aussi absolument central dans les bouquins. Bah, là, vraiment, on le retrouve tel qu'on le connaissait dans les bouquins. Et surtout, moi, je suis très content, en effet, qu'il y ait Rosaline Chao, donc, qui joue Jay Wenjie, âgée, parce que c'est une actrice que moi, je connais pour la franchise Star Trek, parce qu'elle est celle qui jouait Keiko O'Brien dans La Nouvelle Génération, dans Deep Space Nine, qui était un rôle régulier, mais c'était pas un très grand rôle. C'est une actrice qu'on a vue dans des tas de séries, on tombe sur elle des fois dans des épisodes de Magnum, des trucs comme ça, enfin des trucs improbables. Et là, enfin, elle a un rôle crucial, central dans une série, donc je trouve assez chouette qu'enfin elle ait quelque chose à jouer.
Sur l'empathie, je rejoins ce que tu disais, Margot. Les personnages masculins, j'ai eu mon corps rempli de ronces, comme dirait Anaïs Bernage, pour les personnages masculins, hormis Benedict Wong, qui joue le flic.
Oui, le flic est super.
Et effectivement, vu que quand on a lu les bouquins, c'est un personnage, comme tu l'as dit, central. Je me suis dit, s'ils me mettent un acteur bof, s'ils en font quelqu'un de pas très charismatique et pas très intéressant, je vais être déçue parce que, bon, on n'en dit pas plus. Ah, j'adore ne pas pouvoir vous dire des choses aussi frustrantes. Mais j'ai pas non plus eu d'empathie pour grand monde, à vrai dire. Mon problème avec cette série, et c'est pas qu'une question de casting, mais je pense que ça joue pas mal, c'est que j'ai pas réussi à avoir de l'empathie pour la planète Terre, pour les habitants de cette planète, pour les gens qui essayent de résister face à un envahisseur, hein, parce qu'on peut le dire, hein, c'est clairement ça ce qui se passe dans la saison 1, hein.
Heureusement que tu n'es pas astrophysicienne en réalité, Nora.
Oui.
Sinon, je m'inquiète.
Après, Iwenji a répondu à ce message parce qu'elle ne croyait plus beaucoup en l'humanité elle-même.
C'est un thème de la série. Est-ce qu'on vaut la peine d'être sauvé?
Et d'ailleurs, dans le livre, c'est extrêmement développé parce que dans le bouquin, il y a deux écoles qui s'affrontent sur cette idée d'invasion extraterrestre ou pas. Et là, on peut vraiment parler de ça, de est-ce qu'on mérite, pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'on a déjà fait de notre planète, des gens qui l'habitent, qui a le droit de vie ou de mort sur nous, en fait. Et là, j'ai vraiment eu du mal à m'attacher, moi, à cette bande d'amis. Alors, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais globalement, j'avais pas trop d'enjeux sentimentaux, même quand, effectivement, il y en a qui il arrive des choses gravissimes. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'aime cette série, mais quand je ne peux pas ressentir d'empathie pour quoi que ce soit, je la regarde un peu... Disons, j'ai un regard un peu plus détaché.
Mais après, moi, j'ai quand même beaucoup pensé à Game of Thrones. Et je me souviens, après la saison 1, j'étais pas particulièrement attachée au personnage. Bon, le personnage le plus attachant, il crève de toute façon dans la saison 1 et tout ça. Donc voilà. Et je me demande si c'est pas avec le temps qu'on va s'attacher à ces acteurs, à leurs personnages. Donc je demande à voir la suite, en réalité.
Margot demande d'avoir la suite.
Je demande, j'exige.
Est-ce qu'il y a eu ces problèmes-là ou pas pour vous, Romain et Ilan, d'attachement?
Comme je disais, moi, avec les jeunes, finalement, les Oxford Five, à part un, celui joué par John Bradley, qui en effet est un espèce de Elon Musk puissance 1000, c'est-à-dire un gros connard qui est à son fric, grosso modo.
Mais rigolo.
Mais voilà, rigolo. Mais c'est pour ça qu'il est attachant. On se dit vivement la prochaine scène avec lui parce qu'au moins on va se marrer.
En fait, pour moi, c'est un des seuls personnages qui, avec sa meilleure copine, quoi, qui existe réellement. Quoi. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir un peu sa personnalité, son caractère.
C'est ça.
Assez rapidement, je trouve qu'il est caractérisé, comme on dit, assez rapidement, et ça manque à tout personnage.
Il y a probablement aussi un problème, non seulement de personnage d'écriture, mais d'acteur aussi, et d'actrice, puisque donc l'actrice mexicaine qui joue le personnage de Oggie,
Eiza González,
voilà, qui est un peu le personnage central de la série. En tout cas, c'est par ce personnage-là qu'on rentre dans l'intrigue, puisque donc c'est un peu elle qui subit un peu toutes ces histoires de meurtres mystérieux dans la communauté scientifique. Bah, elle, clairement, on a beaucoup de mal, je pense, à s'attacher à elle, et je pense que ça tient beaucoup à l'actrice, beaucoup plus qu'à l'écriture.
Je suis d'accord, et je ne comprends pas comment on peut nous faire croire que cette actrice, que ce personnage s'intègre correctement à cette bande d'amis. Je la trouve vraiment en décalage par rapport aux autres, et effectivement le jeu n'est pas là, on est sur le maillon faible de la chorale,
celle qui chante faux,
celle qui chante, ou bien qui n'a pas appris le texte chanté et qui fait du playback.
La carte blanche de l'ACS.
Ouh, c'est le jingle de la carte blanche. Ilan, j'espère que tu es prêt. C'est à toi.
J'ai bu mon eau. Plus tôt dans l'émission, je déplorais l'absence de spectaculaire dans le problème à trois corps. Et s'il ne s'agit pas là d'une tendance généralisée à toutes les séries, force est de reconnaître que nombreuses sont les séries à nous promettre monts et merveilles dignes des plus grands blockbusters hollywoodiens, pour mieux se complaire dans une forme de sobriété qui ne leur sied pas toujours. Comme s'il fallait constamment choisir entre ambition visuelle et ambition narrative. Et pourtant, dans la myriade d'offres sérielles dont nous abreuvent les plateformes, il en est une qui résiste encore et toujours au spectre de la roublardise. Cette irréductible GAFAM, c'est Apple qui, depuis le lancement de sa plateforme Apple TV+, nous noie sous un déluge, de séries plus fastueuses des unes que les autres. Le 15 mars, la plateforme nous faisait découvrir Hunted, reconstitution de la traque de John Wilkes Booth, avec un budget costume et perruque à faire pâlir de jalousie Netflix et ses chroniques de Bridgerton. Quelques semaines avant, nous étions dans les nuages avec Masters of the Air, troisième mini-série consacrée à la Seconde Guerre mondiale et produite par Tom Hanks et Steven Spielberg, excusez du peu, après Band of Brothers et The Pacific. On pourrait également citer Hello Tomorrow, Les Formidables Silo, Fondation for All Mankind, The Changeling, Echo 3 et ses accents Catherine Bigelowien, si je puis dire, si vous connaissez Catherine Bigelow. Autant de séries qui assument pleinement leur héritage cinématographique à travers une distribution et une direction artistique à tomber, de la production value comme s'il en pleuvait. Apple a du plomb oignon et nous le fait savoir. Alors non, tout n'est pas parfait. Les accents franglais de The New Look agressent nos tympans. Monarch hésite constamment entre telenovela et monster movie. Et les gouttes de Dieu ont l'amer goût du soap indigeste. Mais au moins, dans 99% des cas, le spectacle est là, qu'on aime le résultat ou pas. Alors, loin de moi l'idée de faire du prosélytisme, je rêverais de voir un challenger toiser Apple et le renvoyer dans les cordes, mais à l'heure où les plateformes justifient leur hausse de prix par une soi-disant exigence qualitative des programmes, ça fait plaisir de voir comment l'un de ces mastodontes joint les actes à la parole.
Waouh, bravo Ilan. Je me suis dit, ça va tirer à balles réelles. Alors, ça tire à balles réelles. D'ailleurs, je pense qu'on reparlera ici de New Look.
Oui.
Margot est chaud pour parler de ça. Merci beaucoup, Ilan. C'est la fin de ce numéro d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série. Merci à Margot Barallon, Ilan Ferry et Romain Nigita. Nous, on se retrouve dans deux semaines, enfin nous, ou pas, ou moi je serai peut-être pas là, dans deux semaines pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager l'épisode, à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, car il n'y a pas d'amour, comme je le dis souvent, seulement des preuves. Ciao.
Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et télécharger sur Beta Série La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.